violence. Nous refusons toute idée d'une vie qui serait fatalement réduite au minimum vital.
Je n'en dirai pas, on a tous les frères qui n'arrivent même pas pour partir à la guerre. Je ne m'entraîne pas, le test est fini. Je serai pas soldat comme il dit toute la vie. Je ne m'entraîne pas,
qui s'assassine impunément.
Un mot de trop, et c'est un mort tout en orange.
Les flics tabassent, sortent le P38 et le pic du flingue de glace.
Les flics, la police
et
le vice.
Et par des keufs se font planer, c'est connu, dans le Parisien t'as que des histoires comme as.
La route te guette, mec, les flics aussi.
Soit du rouge, aussi rouge que vos bavures.
J'ai mal au cœur quand ta frère meurt.
Un frère meurt.
Un accident de travail, à t'en faire peur de sortir sans pare poil.
Moi seul et unique.
Bonjour et bon réveil à tout le monde. À l'instant, la rediffusion de l'excellente émission Pata Negra. Et tout de suite, il est midi sur les ondes de Radio Dio 895 FM, l'émission du numéro 0. Numéro 0, c'est un site internet, un média alternatif et participatif. Les articles paraissent régulièrement sur papier. Et donc, voilà, et c'est aussi une émission dans laquelle vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, nous écouterons alors une interview de quelques personnes qui font partie d'une association qui s'appelle Les Amis d'Outre-mer. Cette association est de Saint-Étienne et ils et elles nous donneront leur point de vue sur les raisons de la grève qui se déroule en Guadeloupe. Voilà. Et en Martinique aussi. Il y aura du monde aussi présent ici à Radio Dio pour parler et s'exprimer sur le mouvement de grève qui se déroule en ce moment à la faculté de Saint-Étienne. On parlera, je ne sais pas, sans doute aussi de la manifestation qui avait lieu ce matin, une manif qui rassemblait les personnels hospitaliers et de la fac aussi et autres, je ne sais pas trop, j'y étais pas, mais on verra ça tout à l'heure. Donc voilà, au menu aujourd'hui plutôt grève en fait. Mais avant tout ça, écoutons les merveilleuses et impertinentes brèves de Bee, les brèves en musique du monde et de l'antimonde.
Vous pouvez envoyer la séquence suivante.
Okay, merci. Voir ça.
C'est inutile tout ça, ça fait longueur et ça ne sert à rien.
Ministre, député, sénateur, pourvoyeur de lois liberticides et fascistes, vous n'êtes que des morts en sursis. C'est le fort beau message qu'ont reçu récemment 7 hauts responsables de l'UMP, dont Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Michel Alliomari et Rachida Dati. Ces lettres, envoyées dans des enveloppes en papier craft, étaient toutes accompagnées d'une balle, une balle de revolver de différents calibres. Des experts de la police scientifique sont actuellement en train d'essayer de deviner qui est ce bon gars ou cette bonne gâte. Alors, pour vous, on a retrouvé l'un des potentiels suspects parmi les 60 millions possibles.
Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Nicolas Sarkozy?
Que s'il continue comme ça, il met la France droit dans le mur, et que s'il continue comme ça, on s'en va à une guerre civile. Et que j'ai 79 ans, et que j'ai toute ma tête, et que j'ai eu mon bac, et que j'ai fait du doctorat.
Elle croit pas si bien dire. Le LEAP, un groupe de réflexion composé d'experts assez sérieux, vient de tirer une conclusion assez affolante, ou réjouissante, c'est selon, en ce qui concerne l'avenir des pays occidentaux face à la crise économique. La guerre civile serait aux portes des États-Unis, de l'Europe et du Japon. La crise serait ainsi capable de susciter de violentes révoltes populaires dont l'intensité serait aggravée par une libre circulation des armes à feu. L'Amérique latine, mais aussi les États-Unis, sont les zones les plus à risque. Il y a 200 millions d'armes à feu en circulation aux États-Unis. Les experts du LEAP décèlent d'ailleurs déjà des fuites de population des États-Unis vers l'Europe, où la dangerosité physique directe serait plus faible. Ça peut faire rire comme ça, mais disons-le au passage, le LEAP avait prévu en février 2006, avec exactitude, le déclenchement et l'enchaînement de la crise actuelle. L'industrie nucléaire française est au bord du gouffre. Après le scandale qui a éclaboussé tous les laboratoires d'analyse d'EDF, la plupart des commandes d'EPR à l'étranger ont été annulées ou suspendues. Au final, M. Sarkozy n'arrive à vendre des réacteurs qu'à la France. EDF a perdu 9% à la Bourse de Paris il y a deux jours et près de 70% en quelques mois. Areva a perdu plus de 40% en quelques mois et est au bord de la faillite.
On parle de l'étoile absinthe qui va s'effondrer sur la Terre. Tchernobyl, savez-vous que ça veut dire absinthe? Alors, je ne dis pas que c'est Tchernobyl qui va entraîner la fin d'un monde, d'une civilisation, mais la pollution que cela a engendrée est inquiétante. Il peut y avoir demain un autre Tchernobyl qui sera aussi placé sous l'optique de l'étoile absinthe.
Décidément, la Russie est un pays qui chaque jour fait de plus en plus froid dans le dos. Anna Politkovskaya était une journaliste opposante à la politique de Poutine et à la guerre en Tchétchénie. Elle a été assassinée le 7 octobre 2006 à Moscou. Le procès des accusés de ce meurtre vient de se terminer il y a peu. Verdict, tous libérés, faute de preuves. Et si c'était que ça, le 19 janvier, deux de ses proches ont été exécutés en plein centre de Moscou. Stanislas Markelov poursuivait devant les tribunaux les criminels de guerre russes et tchétchènes. Anastasia Balbulova enquêtait sur les groupuscules néo-nazis chargés de faire taire les opposants. En France, on a des missiles nucléaires qui moisissent dans des silos par-ci et par-là. Mais l'armée est loin d'être au top au niveau de la sécurité. En janvier, un virus informatique plutôt banal a paralysé les forces de la Marine nationale. Ce dernier s'est infiltré dans le réseau intranet de la défense et a cloué au sol pendant plusieurs jours des avions de chasse Rafale. D'autres systèmes d'armement auraient également été bloqués, sans qu'on sache trop lesquels.
Down on the farm, calling all cows up to the barn. I moved this morning just before day. You better come and get it, we got to give it away. We're gonna give a little milk and give a little cream.
Le STIC, système de traitement des infractions constatées, est une sorte de casier judiciaire bis qui recense plus de la moitié des Français. Plus de 100 000 policiers y ont accès. Les données collectées concernent 28 millions de victimes et 5,5 millions de suspects. En 2008, la CNIL a constaté 83% d'erreurs dans ce fichier policier. Parmi ces erreurs, on retrouve des victimes d'agression qui se retrouvent accusées d'automutilation. Les fiches concernant les affaires sans suite ou la culpabilité du suspect n'a aucune raison d'être devraient être systématiquement effacées. Pourtant, celles-ci sont gardées telles quelles depuis la création du fichier en 2001.
Là où ça craint, c'est que ce fichier fait office de casier judiciaire pour bon nombre d'emplois. Des emplois dits à risque et que depuis peu, près d'un million de Français pourraient se faire licencier ou devoir refuser un emploi pour la simple présence de leur nom dans le stick. Tout ça justifié par une simple prévention de la menace terroriste. Merci la crise. François Fillon, le bien nommé, vient d'annoncer que le budget de la défense et de la gendarmerie sera pour la première fois amputé de 9 millions d'euros et que d'ici 2011, 4800 emplois vont être supprimés dans la police. Sinon, depuis plusieurs mois, la police irlandaise pourchassait un conducteur polonais répondant au mystérieux nom de Prawo Jazdy. Ce dernier aurait commis en Irlande plus de 50 infractions au code de la route, mais bizarrement, toutes les amendes lui étaient envoyées à chaque fois à une adresse différente. À la suite d'une longue enquête, sans fin, les flics se sont décidés à publier un avis de recherche dans les journaux. Un lecteur leur a alors révélé que Prawo Jazdy, en fait, en polonais, ça veut dire permis de conduire.
Pour conclure, ce morceau de musique à grand effet, qui met pleinement en valeur toutes les perfections techniques et musicales de votre électrophone.
Joyeux portugais.
Et voilà, donc on va maintenant enchaîner avec une interview des membres de l'Association des Amis d'Outre-mer de Saint-Étienne. Nous les avons rencontrés lundi pendant la grève à la fac et ensuite ils nous ont invités chez eux, donc mardi 3 mars. Et on a discuté de la situation aux Antilles, et puis de la grève et tout ça, des raisons de la grève. Donc je leur donne tout de suite la parole.
Alors, je suis Monsieur Michel Marajot, je suis le président des Amis d'Outre-mer. L'association s'est basée sur la culture. Et normalement, on reçoit en principe les gens qui reviennent des pays d'outre-mer. On essaie de s'adapter un petit peu à chez nous. On les invite ici, comme ça ils ne seront pas dépaysés.
Et puis il y a tout un côté artistique et culturel qui est fort quand même. Voilà. Parce qu'il y a du folklore, qui, un groupe folklorique qui fonctionne et qui permet aux enfants qui sont nés ici de découvrir le folklore de leurs racines.
C'est un lieu de rencontre.
C'est un lieu de rencontre. On fait pas mal de manifestations pour que les gens ne soient pas dépaysés.
Et c'est pas dédié.
Et c'est ouvert à tout le monde. Hein.
Voilà.
C'est pas uniquement les Antilles. Hein. Ah, oui. C'est ouvert à tout le monde. Déjà pour le 23 mai, on va faire hommage aux victimes de l'esclavage ici. On attend beaucoup de personnes.
Ok, donc en fait, nous on venait principalement pour parler de la grève générale qui est en Guadeloupe et en Martinique. Et vu qu'on trouvait que les infos auxquelles on avait accès par la télé, ça ressemblait plutôt à de la propagande, c'est pour ça qu'on venait pour vous demander, vous, un peu, comment vous le voyez. Et donc on voulait commencer par comprendre un peu quelles sont les raisons de cette grève.
Mais en principe, la raison de cette grève, c'est les gens, ils en ont marre parce que la vie est trop chère. Parce que tout le produit qui arrive aux Antilles, c'est taxé. Alors les gens qui ont des bas salaires, ils peuvent pas comme il faut. Ils peuvent pas manger comme il faut. Par exemple, vraiment, ceux qui sont dans les campagnes, vous avez les gens qui cultivent de la terre, il y a le poisson, il y a quelque chose. Mais les gens qui habitent en ville, dans les villes, ils n'en ont rien. Il faut payer, il faut aller dans les grandes surfaces payer. Les grandes surfaces, c'est la même chose, c'est les béquets, ils ont le monopole, ils ont 80% des grandes distributions. Et pourtant ils sont 1% de la population.
Oui, pourtant. Oui.
Est-ce qu'on peut mais qui sont les béquets,
Les béquets, c'est les maîtres d'esclaves. Les béquets, c'est les maîtres d'esclaves. Quand l'esclavage a été aboli...
C'est les descendants,
oui,
les petits, oui.
Comment
descendants.
Les descendants, les maîtres d'esclaves.
Des descendants,
oui. Au départ, ils sont les maîtres.
Ils sont les maîtres, oui.
L'esclavage a été aboli, c'était quand même là. Maintenant, c'est leurs descendants, mais au départ, c'est ça. Ouais. Les maîtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils étaient les patrons de l'île, ils ont récupéré tous les meilleurs terrains, enfin tout. Et puis après, ils ont loué aux esclaves pendant un certain temps pour qu'ils plantent de la canne à sucre,
les
bricoles comme ça, les bananes. Mais quand ils ont vu que les bananes ça rapportait, c'est toujours eux les maîtres. Ils louent aux gens et les gens payent leur location par engrais, par sac d'engrais qu'ils donnent tous les mois pour faire pousser la canne à sucre et compagnie. Et à la fin de la récolte, ils récupèrent tout ce qu'ils ont donné, qui fait que les gens qui louent, à la fin, ils n'ont pas grand-chose. Mais ils sont contents d'avoir quelque chose à eux pour dire c'est à eux, ils sont contents, mais à la fin, ils n'ont rien. Et après, ces béquets-là, ils récupèrent tout. Donc, c'est comme si on pissait dans un violon. Et voilà. Mais ce qu'il ne faut pas que les Antillais confondent, ne mélangent pas non plus. C'est les béquets et les métropolitains qui viennent pour monter une société, pour gagner leur vie aux Antilles. Ceux-là, ils ne sont pas responsables. Ce n'est pas des béquets. Même s'ils connaissent l'histoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Guyane, ils n'ont rien à voir là-dedans. Donc il faut faire cette différence. C'est bien comme on dit, moi je n'aime pas trop ce terme, ce mot blanc ou noir, c'est des blancs, mais ils n'ont rien à voir, c'est pas les béquets. Déjà, ils pensent d'une autre manière par rapport aux béquets, Donc, il faut faire cette différence.
Ah ouais.
Et il y avait une femme dans les années 70 qui s'occupait, une femme de Béqué qui s'occupait de la rédaction, de la correction de tous ceux qui passaient le bac. Eh bien, elle disait, mais je ne veux pas tous leur donner le bac, même s'ils le méritent, parce que je n'aurai pas de femme de ménage. Et véridique.
Donc, en fait, les béquilles, ils maintiennent un système de monopole sur terre et sur l'administration aussi.
Ah, ben, c'est eux qui commandent.
Parce qu'eux, ils reçoivent de l'argent aussi de l'administration. C'est eux qui commandent avec le conseil général. Le conseil général, il y a des noirs aussi là-dedans. Mais les mecs, ils disent, bon, écoute, si tu veux quelque chose, tu sais que c'est moi qui...
Il y a des ententes.
Donc, les gars, ils s'entendent et ils se la ferment. Et c'est pas d'aujourd'hui. Et même, par exemple, un gars m'expliquait, il me disait, bon, je suis antillais, je fais mes études à Paris, je fais ma formation, je fais plusieurs pays, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, j'ai une grosse formation. J'ai bac plus 9 ou plus je ne sais pas combien, je vais aux Antilles. Je monte mon entreprise. Quand mon entreprise commence à tourner, les béquets, ce qu'ils font, ils vont voir mon fournisseur. Ils lui disent, attention, si tu y fournis, tu ne mets pas les pieds en Guadeloupe. Donc le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais comme lui, le béquet, il me prend beaucoup de marchandises.
Il ne le donne pas.
Voilà, soit j'augmente son prix, ou il faut qu'il passe par le béquet pour récupérer ce truc. Donc le mec, il n'a rien. Il n'a rien.
Alors sûr qu'il y a un monopole de tout, alors qu'il y a une chose qui n'est pas normale. Parce que je ne sais pas si vous avez vu le communiqué que j'avais fait, j'avais demandé comme quoi que le gouvernement actuel, il donne un peu mieux de pouvoir aux Antilles. Parce que normalement les Antilles, ils ont pas, tout passe par Paris. Alors il y a des députés, il y a des sénateurs qui sont sur place, mais normalement on ne donne pas le pouvoir comme il faut. En France ils ont des pouvoirs, mais aux Antilles ils n'ont pas de pouvoir.
C'est le préfet.
C'est le préfet, oui. Le préfet, il est d'ici.
Mais c'est qui le préfet?
Il est d'ici.
Mais... Le problème, c'est ça. C'est qui le préfet? Quelqu'un qui ne connaît pas le pays, qui ne connaît rien du pays, ni la misère, ni quoi que ce soit.
Et qui plus est de passage, voilà. Ils sont là que pour quelques années.
Il passe et puis il reste, quoi. Il est préfet, quoi. C'est pas possible, ça.
Il est là pour
il a
5
pas
ans.
Un intérêt à développer.
En Martinique, aux Antilles, normalement, il y a pas mal des Antillais qui sont vachement calés. Il y a des intellectuels, il y en a tout. Mais normalement, ils sont bloqués, ils peuvent rien faire. Tout passe par Paris. Que ce soit le gouvernement.
Et le problème de la terre, on parle du problème de la terre. Les gens peuvent cultiver, mais maintenant le sous-sol antillais est pollué. C'est empoisonné. Avec toutes les interdits.
Avec, comment on appelle ça encore, c'est le machin de
chlordécone.
Le chlordécone.
Empoisonné.
Le pesticide qu'ils ont mis à couler les bananes pour empêcher les bêtes.
Même dans l'océan, c'est pareil.
Et ça faisait 50 ans que c'était interdit en métropole.
C'est interdit et là-bas, ils ont de l'autorisation.
Il y a 6 ans qu'on a interdit ça là-bas.
Non. Donc, c'est passé par les États-Unis.
Le chlordécone.
Le quoi? Le chlordécone.
Alors, moi, je voulais parler de quelque chose aussi aux Antilles. On en parle, mais c'est les fonctionnaires qui ont quand même sur place une prime de vie chère de 40% sur le salaire.
C'est quoi
C'est une prime.
C'est une prime qu'ils ont.
C'est pas les fonctionnaires qui travaillent là-bas et qui sont
tous les fonctionnaires.
C'est pas tous ceux qui viennent de métropole.
Tous les fonctionnaires
métropolitains ou antillais. Pour la vie chère, ils ont 40%
sur leur salaire.
Mais parce que les
salaires
sont bas aussi.
Donc, pour quelle raison? La raison, c'est parce que les fonctionnaires qui viennent de métropole ont 40%. Préfet et compagnie, et les Antillais ont dit, mais comment se fait-il, eux, ils sont fonctionnaires, ils arrivent des métropoles, ils ont 40%, et nous, on est fonctionnaires, on l'a pas. Donc, à force, ils ont dit, bon, et des roues qui se taisent, on va équilibrer. Et qui fait que les fonctionnaires...
Tous les fonctionnaires, ça pose beaucoup de problèmes, quand même, parce que quand... C'est vrai.
Est-ce que le...
Nous sommes dans nous, la voix nous fait bataille, nous pays fait saillot.
yon el kon profitasyon Ki de a Guadoupe yen Guadoupe la nou aden la Soleil la jak a chope Nou vini ka manje nou Nou vini a swafe nou Konvite nou ke si nou Si ti nou bo si ni logan
Est-ce que on en parlait hier, mais le SMIC par exemple, c'est le même?
Non.
C'est pas
non.
le même.
Non, il est plus bas. Hein.
Il est à combien?
J'en sais rien.
Le quoi? Le
SMIC, il est plus bas qu'ici, mais je peux
le
pas
SMIC,
dire.
Le SMIC, il est plus bas qu'ici, je crois qu'il doit avoir au moins 25 ou 30% de moins.
Je peux pas dire.
Mais par contre, l'essence, il est plus cher à Martinique, en Guadeloupe qu'en France.
Alors qu'il
à l'heure actuelle, j'ai regardé hier soir,
les médicaments sont
plus chers.
Les médicaments sont beaucoup plus chers, un exemple.
Oui, parce que normalement, j'ai regardé hier soir sur France O, puisqu'ils ont vu les stations d'essence, eh bien, c'est marqué 1,75 €. Hein? Ici, là, combien? Hein? Et pourtant, l'essence, ils le prennent par
Venezuela.
Venezuela, qui est presque à côté de les Antilles. Alors, je ne vois pas pourquoi qu'il est taxé beaucoup plus cher.
Et ça, c'est les taxes de l'État?
Ah, ben, c'est les taxes de l'État.
Les régionales, hein, c'est
régional. Non, c'est l'État qui fixe. Ici aussi, c'est l'État qui fixe son prix.
Et il y a un problème aussi avec la culture de la banane, c'est ça?
Ah ben oui, c'est pareil, parce que c'est les béquets qui, en la majeure partie des bananiers, ça appartient aux béquets. Hein.
Tout ceux qui
ont, ils ont 58% de terres cultivées qui appartiennent à eux. Hein. C'est des familles qui sont toutes ensemble. Hein.
Et maintenant, ils ont l'hôtellerie.
Ils ont même les
cannes à sucre, l'usine de canne.
C'est eux qui faisont les...
Donc en fait, la plupart des cultures, c'est canne à sucre et banane.
Oui.
Elles sont pour l'export.
Oui.
Et la nourriture quotidienne, elle est importée. Voilà. Et donc ça coûte super cher.
Ils
ont racheté les petites terres des familles pour faire des grandes terres où on cultive la banane, la canne à sucre et tout ça. Bon, ils ont racheté à un prix correct, mais ça ne suffit pas pour vivre pendant des années.
Et puis, quand on leur donne l'habitude de vivre à un mode de vie à la française, les produits de consommation locale, ils ne consomment plus.
Ouais.
Voilà, c'est ça le problème. Ils sont obligés d'apporter tout ce qui est produits alimentaires, tout ce qui est produits industriels et énergétiques.
Et moi, quand j'y vais, je mange que des produits locaux.
Ah ben moi aussi.
Parce que c'est moins cher.
Ce qui n'est pas normal, c'est quand tu achètes des tomates locales et que tu payes 6 euros le kilo, et quand tu achètes, que tu vois dans les grandes surfaces, pas cher, tu te leur prises, parce qu'il y en a maintenant en Guadeloupe. Les tomates importées de France sont moins chères.
Et oui, c'est ça aussi.
Mais il y a plein de petites.
Mais tu dis, on ne peut pas se rendre compte, mais nous, quand on va en vacances, par exemple, on se rend bien compte de ce qu'on paye.
On se rend compte
que une semaine de vie là-bas aux Antilles nous coûte quand même presque deux fois plus cher qu'une semaine de vie ici à Saint-Étienne. Hein.
Et on se demande comment les gens font, les gens qui ont des petits salaires, enfin, qui survivent, hein, parce qu'il y en a, je me demande comment ils font pour
tout est hors de prix.
Pour
et
vivre
pourtant, on
ne
fait pas des folies. Hein.
À mon avis, ils ne doivent pas manger tous les jours.
Non,
ils se débrouillent.
Aux Antilles, on ne meurt pas de faim.
On ne meurt pas de faim. Non, mais ils ne font pas de superflu, quoi. Je veux dire, ils ne peuvent pas.
Ils ne font pas de superflu, mais aux Antilles,
en
on meurt pas
de faim. En qualité, ils se restreignent peut-être sur certaines choses.
Il y a toujours...
quand t'as des gamins qui te réclament, je sais pas moi.
Oui, mais il y a toujours la part de celui qui passe. Il y a toujours ça, c'est dû certainement à l'esclavage, il y a quelqu'un qui passe.
Ah ben il va se manger.
Voilà, la première chose qu'on va lui demander, est-ce que t'as faim? On va lui dire non.
Mais si, c'est peut-être fini. Non, moi je suis pas trop... Plus maintenant.
Ah ben si.
Ça répond pas à la question qu'on t'a posée.
Oui.
Ça répond pas à...
Non, ça c'est des détails.
Ça répond pas à la misère qu'il y a là-bas, ça répond pas à tout ça.
La grève, c'est parce qu'ils ont eu le courage. Maintenant, parce que nous,
on n'a pas. Qu'il faut grève, hein.
Non, c'est aujourd'hui que cette grève.
Grève.
C'est aujourd'hui que cette grève porte le plus.
Le plus, il porte ses fruits.
C'est aujourd'hui qu'on parle de cette grève ici à Métropole.
Ça fait longtemps qu'il y a des grèves sur cette
voilà. question. Il y a des grèves.
Voilà, il y a, ça fait longtemps, mais ça s'arrêtait avant.
Et ça couvait
mais, là, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que les jeunes, comme ici, de banlieue, ont plus de courage que leurs parents. Moi, ça me fait penser aux harkis. Mm-hmm. Ça me fait penser aux harkis, puisque les parents disaient, mais non, les parents sont formés d'une certaine manière, lavage d'esprit et compagnie, ils voient comme ça. Non, il ne faut pas dire ça, parce que non. Toujours avec l'esprit du maître et compagnie. Donc, qui dit, et maintenant, les jeunes, on voit dans tout,
là, partout,
les jeunes se révoltent parce qu'ils disent, on n'écoute plus les parents, on en a marre, et voilà. Et c'est pour ça qu'on voit quelques-uns qui y en a qui sont là, qui ne savent même pas pourquoi ils sont là, qui vont brûler les voitures, tirer sans savoir pour eux. C'est juste, c'est pour foutre la merde. Mais ça fait partie d'un tout. C'est qu'eux, ils ont eu le courage, ils en ont marre de subir, donc ils se révoltent. Nous, on ne pouvait pas parce qu'on était encore dans le...
Dans les
lavages des cerveaux et compagnie. On n'avait pas ce courage, mais là, ils vont aller jusqu'au bout.
Et donc, cette grève, elle part vraiment de la question de la vie chère.
Oui.
Et elle, est-ce que vous pouvez raconter un peu quand, comment elle a démarré, qui l'a lancée? On se demandait vraiment comment ça se passait.
En principe, ça a commencé par la Guyane. Alors, ça a commencé par la Guyane. La Guyane, ils ont fait grève parce que l'essence était trop chère.
Oui,
c'est plutôt c'est toujours pour l'essence. Après, normalement, ils ont essayé de faire un petit peu tout pour faire, parce que la vie chère aussi, c'est pareil. Et là, normalement, le gouvernement, ils ont lâché. Ils ont lâché, mais pas tout. Alors, quand la Guadeloupe, ils ont vu que la Guyane, ils ont eu quelque chose, ils ont dit, pourquoi pas nous ? Alors, automatiquement, la Guadeloupe, ils ont commencé, ça fait déjà un mois qu'ils y sont. Mmh. Et la Martinique, ça s'est enchaîné derrière.
Cette semaine.
Mais la Guadeloupe, la Martinique, ça s'est enchaîné derrière. Et pour l'instant, la Martinique, je ne sais pas si M. Sarkozy, il a peut-être mieux peur de la Martinique, parce que hier soir, ils ont signé.
Ils ont signé quoi
les... Alors, hier soir, ils ont signé les 200 euros... c'est ce qu'ils avaient promis. Ils ont pour les produits de toute nécessité, normalement, ils ont baissé aussi. Ils ont baissé aussi. Et en plus, normalement, le collectif, ils ont eu en plus, ils ont signé hier soir aussi, pour qu'à partir de juillet ou septembre, ils en ont encore 50 euros supplémentaires.
Par mois.
Tous les mois. En principe, c'est les bas salaires. Hein. Ils ont dit tous ceux qui ont moins, c'est bien marqué, tous ceux qui ont moins de 1 800 euros.
1 000 combien ?
1 800.
Comment ça se passe au jour le jour, la grève, par exemple ? On a entendu qu'il y avait des blocages, des barrages.
Moi, je ne sais pas, j'ai ma fille qui habite là-bas. Bon, en fait, il n'y a rien. Il n'y a plus d'essence, donc il n'y a plus de voiture. Il n'y a rien, quoi. Les magasins sont tous fermés.
Ouais.
Elle arrive à acheter du pain, elle trouve...
Dans les pharmacies, il n'y a même pas de lait maternisé pour
rien,
les enfants.
Il n'y a rien.
Même hier soir, même hier en Martinique, les dockers, ils ont bloqué le port.
Voilà, donc...
Le port à Fort-de-France, il est bloqué depuis hier.
Mais les grèves, c'était toujours...
Les collèges sont
pourquoi
fermés.
Pourquoi ces gens-là peuvent se permettre de bloquer?
Parce que normalement,
c'est 6 000 euros par mois.
Oui, mais c'est pas les vrais dockers qui ont bloqué. C'est pas les vrais dockers qui ont bloqué. C'est des camions qui font partie du collectif qui ont bloqué l'entrée du port. Ils laissent uniquement passer les conteneurs qui ont soit pour l'hôpital, soit pour la gendarmerie, soit pour l'armée, mais qui sont accompagnés par la gendarmerie.
On sait en fait, on se demandait un peu comment elle s'organisait, qui faisait la grève, qui l'organisait et tout. Donc on sait qu'il y a le LKP en Guadeloupe. Mmh. En Martinique, c'est pas pareil. C'est le collectif.
C'est le collectif, en Martinique, oui.
Et donc, est-ce que vous savez un peu comment ça s'est monté, qui c'est, comment ça s'organise?
Normalement, c'est tous les syndicats et pour les associations qui ont formé un groupe de collectifs.
Mais nous, on sait que ce que disent les médias, on n'a pas de...
Alors, ils ont monté leur groupe de collectif, et puis même les mairies, partout c'est bloqué, hein, ils ne peuvent rien faire.
Même avec tout ça,
à la différence on voit. En France, c'est pas chaque profession qui a des avantages dans sa profession.
C'est tout le monde.
Parce qu'il y a des choses quotidiennes. Ouais.
Vous avez les médecins, les infirmières, ouais, tout le monde là, oui. Ouais.
Tous les syndicats sont mis d'accord. Ouais. Ils ont dit hier à la télé qu'ils étaient 49 syndicats d'accord pour faire la grève. Donc, c'est la voix d'une personne, d'un syndicat. Ouais, et qui, on avance, tout le monde avance. On va aller jusqu'au bout, donc ils écoutent
tout le monde est vraiment solidaire,
et puis c'est parti, tant pis, on ne sait même pas où ça va aller, qu'est-ce que ça va donner, mais on y va.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez dire, dont on n'aurait pas parlé?
Il faut dire aussi que ce qui se passe actuellement, c'est véritablement un mouvement social, et si, même si c'est politique, c'est social avant tout. Et ce qui se passe, c'est que le gouvernement français qui est en place essaie de véhiculer d'autres idées, indépendance, etc., ce qu'on a entendu. Et c'est pas bon, parce que ça va faire qu'envenimer les choses, alors que c'est pas la réalité du terrain. Et voilà, c'est ce qu'il faut dire avant tout, qu'on cherche pas forcément l'indépendance. Voilà.
Des coulées noires là, on pas mandé dans blanc en moins, on pas mandé chivé grené, on pas mandé ne plate en moins, on pas mandé on gel épée, toutes ces mounades d'eau en moins, comme si dirait mon son tableau maman.
Ah, nègla, Japon,
le maman.
Ah, nègla,
Japon, j'ai la mâche ballon.
Ah, nègla, Japon,
nègla, Japon, j'ai la méprison.
Ah, nègla, Japon.
Dans le Japon, l'eau en tient la blanche.
Ah, nègla au Japon.
Nègla au Japon, j'ai la malaba.
Ah, nègla au Japon.
Nègla au Japon, j'ai la nègla même.
Ah, nègla au Japon.
On pas mandé couler noué là. On pas mandé dans blanc moins. On pas mandé chivé grené. On pas mandé ne plate moins. On pas mandé on tient l'épée. C'est mon adeille d'eau au moins, comme si directement son tableau maman.
Ah, nègla au Japon.
Japon, le maman.
Ah, nègla au Japon.
Nègla au Japon, j'ai la malpalon.
Ah, nègla au Japon.
Moi dis nègla au Japon, j'ai la méprison.
Ah, nègla au Japon.
Nègla au Japon, l'eau, j'ai la blanc.
Ah, nègla au Japon.
Moi dis nègla au Japon, j'ai la malaba.
Ah, nègla au Japon.
Nègla au Japon, j'ai la nègla même.
Ah, nègla au Japon.
Yo prends moi si terre d'Afrique, yo chaye moi en Amérique. Si mes moi en toute usine, mange à jour pète famille en moi. Celle vit un carré témoin, au tambour n'en pas jouer la maman.
Ah, nègla au Japon.
Japon, yo maman.
Et voilà, on vient d'entendre Jocelyne Lalille qui chante une chanson qui s'appelle Neg. Juste avant, pendant l'interview, c'était La Guadeloupe, c'est à nous. La Guadeloupe, c'est à nous, c'est pas au béquet. Voilà. On peut dire pour les dernières nouvelles qu'effectivement, le LKP a signé un accord de fin de grève. Ils ont obtenu sur le papier plein de choses comme la baisse des prix des repas, le fameuse prime de 200 €, la baisse de la taxe d'habitation, du prix de l'eau, du produit des premières nécessités, les tarifs bancaires, le prix du carburant, le gel des loyers, tout ça. Allez, il vous reste encore plein de choses à faire parce que c'est pas gagné, on est avec vous. Et puis, maintenant on va passer à la lutte dans les facs avec tout plein d'invités en studio. Et c'est parti, c'est à vous.
Alors, effectivement, il y a plein de monde ici. Donc, on peut rappeler que vous êtes toujours à l'écoute de l'émission du numéro 0. Cette émission, si vous avez loupé, par exemple, les brèves de l'Antimonde ou bien l'interview qu'on vient d'écouter, n'oubliez pas que cette émission sera diffusée à 17h aujourd'hui. Donc, effectivement, ici, il y a plein de monde. Alors, vous étiez à une manifestation ce matin. Donc, vous êtes de la fac, vous participez au mouvement de grève. Qui a débuté au mois de janvier. Donc, je sais pas, le mieux c'est peut-être que vous vous présentiez éventuellement.
Donc,
Moi, c'est Johan. Je suis étudiant en première année de master de sociologie. Voilà, on a commencé le mouvement il y a 2 mois, donc au mois de janvier. Voilà. Et puis, mon voisin, je vais passer la parole à mon voisin.
Donc, moi, c'est Florent. Donc, je suis étudiant en troisième année de géographie à l'Université de Saint-Étienne, donc sur le site de Tréfilerie. Donc, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui.
Frédéric, doctorante en sociologie.
Abdelkader Belbari, je suis enseignant-chercheur en sociologie.
Bonjour, Amaury, première année de sociologie.
Alors, pour commencer, nous avions prévu de vous demander d'abord l'historique du mouvement et plus précisément comment a commencé ce mouvement de grève à la faculté de Saint-Étienne.
Ça a commencé donc par les enseignants-chercheurs, donc on va laisser la parole aux enseignants-chercheurs.
Merci. La mobilisation a commencé par les enseignants-chercheurs. Donc la première assemblée générale des enseignants-chercheurs et du personnel IATOS et BIATOS, donc les administratifs, a eu lieu 6 janvier. À partir de là, progressivement, donc, il y a eu un débat avec les étudiants, et les étudiants ont fini par aussi se mobiliser et décider aussi de rentrer dans la grève avec le personnel de l'université.
D'accord. Alors peut-être on ne va pas reparler de la LRU, tout ça, mais enfin c'est une grève qui concerne la réforme du statut des enseignants-chercheurs.
Voilà, il y a 3 revendications. Donc la réforme du statut des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire que le décret 84, donc qui est remis en cause, décret 1984, qui définissait le statut des enseignants-chercheurs. Donc là... Il y a la réforme de ce décret. Il y a la masterisation des concours pour les professeurs de primaire et de secondaire. Donc, suppression de l'UFM, où a lieu la formation de ce personnel actuellement. Et puis, la suppression des postes. Donc, il y a eu... sur l'ensemble des universités en France, il y a eu autour de 1036 postes de supprimés, et à l'université Jean Monnet, 6 postes. Comme ça, d'emblée, 6 postes ont été supprimés.
D'accord. Alors peut-être que maintenant, on peut peut-être parler du moment où la grève a été rejointe par les étudiants et les étudiantes, non ?
Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est relativement historique, que c'est un mouvement initié en fait par le personnel des universités, donc enseignants-chercheurs et BIATOS. Ce qui a fait que donc ils sont venus, on a essayé de coordonner donc les mouvements, ces mouvements pour créer qu'un seul mouvement. Et donc ça s'est organisé donc sur l'université de Saint-Étienne durant tout le mois de janvier et le mois de février. Et il y a une progression au niveau des revendications, puisqu'il y a aussi, donc on a parlé de la réforme du statut enseignant-chercheur, la masterisation des parcours d'enseignement. Mais il y a aussi progressivement d'autres revendications qui sont venues se placer, c'est-à-dire la LRU, le processus de Bologne, qui ont fait que les étudiants se sont mobilisés et ont créé un mouvement fort sur l'université de Saint-Étienne.
À ça, on peut ajouter aussi des gens qui sont positionnés. Enfin, il y a eu pas mal de débats qui sont organisés à l'université, notamment des travaux d'écriture de tract. On a pu pas mal échanger. Pas mal échangé, notamment autour de la précarité en milieu étudiant, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est un mouvement qui s'est renforcé aussi par le biais de liens qui sont créés avec d'autres personnes, notamment sur le comité des lois, sur les lois antiterroristes. Il y a beaucoup de monde qui gravite sur l'université en ce moment, et c'est vrai que c'est un vrai espace de débat et de débat d'idées, en fait, et c'est assez intéressant. Voilà.
Vous êtes nombreux et nombreuses. Comment vous trouvez que par rapport à genre l'étendue là de tout le personnel et étudiants de la fac, comment vous estimez, enfin comment, je sais pas, par rapport à si vous êtes nombreux à être mobilisés ou...
Donc nous, on pense que la fac comme un lieu de convergence de personnes. Donc actuellement, on peut dire qu'il y a plus de 200 personnes donc, qui tournent sur le site de Tréfilerie, quoi. Au niveau du moment, il y a des roulements, il y a beaucoup de monde qui gravite autour. Ce mouvement en fait essaye de se construire. Il y a eu des réunions, il y a eu des, on était essayé d'aller gratter du côté d'autres secteurs professionnels comme la santé et l'action sociale qui sont très mobilisés en ce moment, notamment pour la loi Bachelot, et ça fait que ça est en train de créer une certaine convergence des luttes et des mouvements.
Alors moi je trouve ça intéressant maintenant qu'on parle un petit peu justement de, je sais pas trop, mais de tout cet organisé, comment vous vous organisez et tout ce processus là, comment ça se passe entre vous et notamment par exemple l'occupation, comment vous en êtes arrivé à cette décision d'occuper la fac par exemple et comment des décisions ont été prises entre vous.
Alors en fait au début pendant 2-3 semaines on avait voté en AG un blocage ouvert, enfin une occupation active, et le truc c'était de virer les gens de cours en fait, tous ceux qui allaient en cours, on les virait avec de la musique et tout. Puis après, vu que ça c'était très fatigant, lundi dernier à l'AG, il y a le blocage qui a été voté par beaucoup de monde. Et dès le lendemain, on a commencé de bloquer.
Donc, ouais, l'idée du blocage de l'occupation, bon, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'il y a aussi la volonté de profiter de ce mouvement de contestation pour aussi mettre en place d'autres activités au niveau de la fac. Et ça, on peut le faire que si les étudiants ne vont pas tous en cours. Donc si on veut faire des manifestations, des actions, faire aussi d'autres choses sur la fac, ça peut être possible que si le fonctionnement normal de la fac est un petit peu enrayé. Donc c'est pour ça aussi qu'on est parti dans cette idée d'occupation, puis qu'on est aussi sur le blocage maintenant. Voilà.
Et ça pose la question, en fait, qu'est-ce qu'une occupation de fac et pourquoi on la pratique, en fait ? Occuper une fac, c'est en quelque sorte la libérer, créer un endroit où il y a un espace de réflexion et de débat, de joie, d'amitié qui se lie, de secteurs qui peuvent se rencontrer, de personnes qui ne pourraient pas se rencontrer en temps normal, qui se retrouvent sur la fac. Donc ça fait converger un tas de gens qui pensent la même chose, enfin qui sont dans la lutte ou dans un mouvement social ou qui ont un esprit qui permet de construire des choses ensemble. Et c'est comme ça qu'on construit un mouvement et c'est comme ça qu'il s'est construit sur Tréfil.
Je crois que c'est important qu'on rappelle que le but de ce blocage, c'est avant tout de faire vivre l'université. Il y a eu des tas de choses qui ont été organisées, vraiment. Enfin, c'est un mouvement qui est très dynamique et qui a fédéré pas mal de monde. Bon, alors chacun à sa manière. On prend des initiatives comme ça. Il y a eu l'université solidaire. Il y a des gens qui sont plus branchés par bosser sur des tracks, il y en a qui font aussi un peu d'activisme sur Internet ou des choses comme ça, et des banderoles, des choses comme ça. Bon, chacun son truc, mais on se retrouve de plus en plus sur une organisation collective et une concertation au sein du mouvement, et c'est vrai que c'est de plus en plus comme ça, et ça crée débat, ça crée débat. Des fois avec des tensions, mais on arrive à s'en sortir et le mouvement reste fort. Voilà.
Et je crois qu'aujourd'hui, donc, on peut dire qu'on est à une époque ultra individualiste, et créer une base collective au sein des mouvements, avoir un fonctionnement collectif, avoir un espace de débat, des réflexions, et arriver d'en tirer des consensus pour continuer à agir, pour continuer à construire le mouvement, déjà ça en soi, c'est quelque chose de formidable, quoi.
Et en l'occurrence, donc, tu parlais de l'université solidaire. Vous avez, il y a un tract qui a été écrit et qui présente l'université solidaire. Je cite vite fait une phrase. Parce que cette conception purement économique de l'université, contre des réformes gouvernementales d'une violence sans précédent, nous défendons la liberté de la science, la liberté de penser, la culture. Est-ce que vous pourriez éventuellement présenter un peu plus cette université solidaire, en quoi elle consiste,
par exemple ? Alors, d'abord l'idée de monter ce que nous avons appelé l'université solidaire, à l'intérieur de ce mouvement qui est mouvement unitaire, mais avec ses deux composantes, hein, donc le personnel et les étudiants. Donc en fait, il y a chaque partie du mouvement fait son AG, son débat, etc. Donc les étudiants ont commencé à faire des groupes de réflexion. Donc réflexion sur la grève, etc. Auxquels ont participé
des syndicalistes extérieurs, SNCF, la santé, etc., enfin, comme ça, et puis les enseignants-chercheurs. Petit à petit, nous est venue l'idée de dire, bien, si on apportait du contenu, nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, comme ça, mais il ne faut pas que ça soit des cours, puisque nous sommes en grève de cours. Donc, en fait, c'est l'occasion rêvée pour débattre avec les étudiants et puis des gens venus de l'extérieur sur un autre mode, donc ouvrir l'université à l'extérieur. Et donc, du coup, pour mettre à bas cette idée de marchandisation du savoir. Quoi. On estime que cette loi LRU, dans son fondement, il y a deux choses, c'est supprimer des postes, faire des économies, et puis faire ressembler l'université à une entreprise, la gérer comme une entreprise et marchandiser le savoir. Donc nous avons le savoir, il doit être citoyen, quoi, comme ça. Donc nous voulons faire partager dans la cité, au-delà de l'université, les connaissances en termes de sciences humaines. C'est pour ça qu'on a fait tout un programme que vous avez devant les yeux.
D'accord. Et est-ce que pour l'instant, cette dynamique trouve un écho auprès des étudiants, des étudiantes ou même d'autres personnes de l'extérieur de la fac?
Au niveau de l'université solidaire?
Oui.
Donc ça a bien démarré, mais c'est vrai que cette semaine, là, comme on a une fermeture administrative donc, qui nous est arrivée dessus mardi, ça a un peu désorganisé l'université solidaire. Donc là, le programme qu'on avait annoncé au début, c'est vrai que cette semaine, bah, il a été chamboulé. Hein. Notamment les moments qui étaient prévus mardi, il y avait notamment une intervention sur où va le service public d'éducation. Mercredi, il y avait deux moments sur la précarité. Donc ça a dû être annulé à cause de cette décision de la présidence de l'UJM. Mais bon, on va repartir à partir de lundi. On a une réunion en fin de journée aujourd'hui pour caler tout ça, pour redémarrer l'université solidaire à partir de lundi, donc se réadapter quoi, cette nouvelle situation avec la fermeture administrative. Mais sinon, au niveau de l'université solidaire, je pense que c'est vraiment une belle expérience parce que ça revient aux fondamentaux de l'université, avoir une université gratuite, accessible à tous, mais en plus, c'est une université ben, dont le contenu est décidé collectivement, donc ça, c'est encore mieux plutôt que d'avoir des contenus qui nous soient dictés par en haut. Voilà.
D'accord. Il y a du monde de l'extérieur qui passe un petit peu. Est-ce que ça marche un petit peu, ce truc de créer un espace de débat dans la fac et voilà, est-ce qu'il y a du monde qui passe un petit peu?
Oui, oui, on a du monde de l'extérieur oui, qui est venu. Hein. Notamment, on a eu un moment, là, lundi soir, c'était autour justement des mouvements en Guadeloupe. Il y avait beaucoup de monde de l'extérieur qui était présent. Il y a eu un débat très riche, très intéressant.
Et vous insistez lourdement sur la convergence des luttes?
Oui. Ben, parce que c'est la journée de la convergence des luttes, puisque ce matin, on était en manifestation donc avec des gens de la santé, du secteur social. Donc, il y a une journée d'action aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre la loi Bachelot. Donc, on s'était déjà rencontrés au préalable avec des gens de la santé, du secteur social. Puis, on avait vu qu'il y avait vraiment des réelles convergences entre la loi Bachelot et la loi LRU. Donc, les attaques faites au niveau de l'hôpital notamment et de l'université, c'est la même chose qui se passe. Donc là, on a fait une manifestation commune ce matin. Et là, à 14h, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, vous pouvez encore vous rendre à Thierry-Fillery, on a une assemblée générale commune, santé, sociale, éducation, recherche, pour continuer d'essayer de dégager des axes de convergence et puis envisager éventuellement des actions communes. Donc AG à 14h aujourd'hui à Thierry-Fillery.
Et pour dire une des conséquences, donc ça fait quelques semaines déjà que le mouvement travaille aussi à cette convergence des luttes. Donc mardi, on a eu une tentative de la présidence de fermer administrativement le site de Thierry-Fillery. Et on a eu reçu un soutien en fait des gens qu'on avait travaillé avec eux, notamment des personnels des syndicats de la santé et de l'action sociale, qui sont venus nous prêter main forte pour engager un rapport de force avec la présidence pour maintenir le site ouvert. Donc c'est déjà beau en termes de résultats.
D'accord.
C'est vrai que enfin, ce mouvement, ça a été beaucoup l'occasion aussi de rencontrer des nouvelles personnes et puis d'échanger des idées. Et c'est vrai que moi, il y avait plein de gens que je ne connaissais pas et avec qui j'ai pu échanger. Et ça a été vraiment, vraiment super cool de pouvoir assister à ça et puis de voir la solidarité qui se dégageait au sein du mouvement. Parce que c'est vrai qu'on a organisé, on a organisé des bouffes collectives. Enfin, ça se fait un peu moins le midi maintenant, mais c'est vrai qu'on a, fait beaucoup de repas collectifs les midis où chacun apportait ses affaires, sa bonne humeur et puis sa participation au mouvement. Et j'ai été assez touché par cette solidarité qui se mettait en place en dehors des rapports qu'on peut avoir habituellement sur le site de Tréfilerie où les gens se croisent et là où enfin les choses s'arrêtaient et où on prenait le temps de discuter ensemble. Voilà.
Alors on voulait passer un petit morceau de musique, c'est une chanson qu'on a trouvée sur internet, c'est la chorale de la fac qui chante dans un tramway. Est-ce que éventuellement vous pourriez vite fait présenter cette chanson, comment elle s'est faite tout ça?
Alors c'est les étudiants en musicologie qui ont lancé ça, ils ont repris une ode de Gluck je crois, c'est ça, c'est un vieux compositeur. Qui est sur laquelle ils ont détourné les paroles et fait une ode à Pécresse, ouais. Qui est gratinée.
Et en fait, je voulais juste rajouter une petite chose, c'est que c'est quelque chose, la chorale donc, du mouvement de lutte, c'est créé de manière spontanée. Et là, on arrive à l'organisation du mouvement, et c'est des choses comme ça que je trouve très belles, qui s'organisent de manière spontanée, en fait. C'est des initiatives d'un groupe qui disent, bah tiens, on va monter une chanson sur Pécresse, etc. Et ils le font, et ça marche, quoi. Voilà, c'est au niveau du fonctionnement du mouvement, c'est intéressant.
Ok, bah allez, pendant Pécresse, on va écouter ça alors.
Pécresse est encore plus minable, qu'elle est redoutable. Mais sa réforme est monstrueuse, et sa réforme est monstrueuse. Sa réforme est encore plus minable, qu'elle est redoutable. Que sa réforme est monstrueuse, que sa réforme est monstrueuse.
Alors voilà, et du coup, alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, là, cette fermeture administrative, vous voulez peut-être plus en parler de... Ça s'est passé mardi à 14h?
Oui, ça s'est passé mardi. Bon, l'heure, on n'est pas très sûr, hein, parce que la présidence eux-mêmes, ils n'étaient pas très cohérents. Il y en avait qui disaient midi, d'autres 14h, d'autres c'était pas encore signé. Voilà, mais bon, c'est vrai que c'était un coup dur. Mais derrière, bon, sur le coup, on a été un peu désemparés, mais derrière, je pense que ça a vraiment eu... pour effet d'un petit peu ressouder les choses, de rassembler les gens face à la présidence quoi, qui prenait position avec cette fermeture administrative.
C'est quoi en fait la fermeture administrative et juste à quoi ça vous expose la fermeture administrative en tant que telle en fait ? C'est-à-dire que pour le moment la fac elle est toujours occupée, mais qu'est-ce que ça change en fait par rapport à votre occupation en fait ?
Bah, concrètement ça change pas vraiment grand-chose. Si les salles sont fermées à clé et qu'on n'a pas accès aux salles...
Concrètement, donc, en fait, au niveau de l'occupation, on en est au statu quo parce qu'on est entré dans un rapport de force avec l'université. On est resté quand même. On a eu quelques menaces d'être sorti par la police. Donc, enfin, le président de l'université a délégué ses pouvoirs au préfet de la Loire. qui peut nous envoyer la police. Mais on ne sait pas trop ce qu'il en est, si c'est vraiment l'intention actuelle. Après, voilà, je vais passer la parole à Kader.
Oui, donc ce qui se passe, c'est que l'occupation de la faculté pendant une grève, hein, donc tout à l'heure, les étudiants parlaient d'occupation ouverte, hein, comme ça, donc c'est assez toléré, quoi, en gros, jusqu'à présent, quoi, donc ça fait partie du mouvement de grève, etc. Par contre, quand il y a une fermeture administrative de la part du président de l'université, à partir de là, on considère que l'occupation est illégale, puisque le président donne d'emblée l'aval au préfet, donc à l'État, et donc du coup, même le personnel administratif, personne ne doit pénétrer à l'intérieur du site. Et c'est après le président qui peut décider de réouvrir le site. Donc en fait, il y a eu des petits incidents, enfin notamment, il y a eu quelque chose quand même assez important, c'est qu'à un moment donné, les étudiants ont décidé, enfin ceux qui bloquaient, ont décidé d'empêcher le personnel administratif de se rendre à son travail, quoi, dans le bureau. Donc là, ça a été, bon, donc ça a été beaucoup discuté, etc. Bon, et à partir de là, le président, bon, donc il a sommé les étudiants de quitter les lieux, de ne plus bloquer, etc. Et il menaçait de fermer administrativement l'université. Ben, les étudiants sont restés dans leur position et puis il a fermé. Donc il a décidé la fermeture administrative.
Donc c'est simplement pour dire par rapport à la présence des personnels, au fait de laisser passer les personnels administratifs. On en a parlé au sein du mouvement étudiant. Bon, c'est quelque chose qui peut être assoupli, etc. On a fait part de ça à la présidence, mais on n'a pas eu de retour de la présidence, donc il reste sur ses positions. Voilà, mais bon, ça risque d'évoluer peut-être d'ici la fin de la semaine, on ne sait pas trop.
Et vous voulez lancer un appel quand même, parce que oui, l'occupation a resté.
C'est toujours un espace de contestation et de lutte, et ça l'est encore plus dans ce cadre de la fermeture administrative. On appelle tout le monde à nous rejoindre sur l'université et à occuper nuit et jour, de façon à se faire entendre. On rappelle également que la prochaine AG des étudiants se fera lundi, et que d'ici là, l'université sera occupée. Et on vous attend tous, quoi.
Et puis, même malgré la fermeture administrative, l'université solidaire continue. Il y aura un programme qui va être mis au point aujourd'hui en fin de journée. Ça redémarre à partir de lundi. Et vous pouvez vous tenir informé avec le blog UJM en lutte, http://ujmenlutte-st-etienne.over-blog.com.
D'accord, ben merci bien tout le monde. On doit mettre en suspens cette discussion. Je pense qu'elle aura de nouveau lieu un jour, j'espère. Et voilà, donc vous voulez annoncer quelque chose ?
Eh bien, juste merci encore aux gens de l'Assaut des Amis d'Outre-mer pour leur participation. Et leur adresse, c'est à l'esplanade Benvent, c'est au Marais. Voilà, vers Geoffroy Guichard. Et leur numéro de téléphone, si vous avez envie de les contacter, 04 77 93 17 31. Et n'oubliez pas, venez danser le 13 mars à l'Entrepôt Bellevue en soutien aux émissions Papillon et Radio Audio. Voilà, je crois qu'on se quitte. Cette émission est rediffusée à 17h aujourd'hui. Et nous, on se retrouve jeudi midi dans 15 jours.
Peut-être vous voulez finir par un slogan ? Oui, une mauvaise blague.
Pendant Pécresse. Et chantons.
Merci en tout cas et à bientôt.
On dit passé, mais à mon pays là.
Très bon pays là.
Là, il faut net souffre sa pays là.
Très bon pays là.
Si on te fisse à déposer là.
Très bon pays là.
Léo, mettez-nous tout dans la rue là.